Quoi, Marjolaine Étienne?
Oui, Monsieur Alexis. Oui, tout le monde.
Bonjour. Alors, on vous reçoit aujourd'hui pour parler du grand sommet qui est organisé du 13 au 16 mai pour célébrer vraiment le demi-siècle d'existence de l'organisation qui est Femmes autochtones du Québec. Femmes autochtones du Québec, si on peut faire une petite rétrospective, c'est un organisme qui représente et défend les droits des femmes autochtones au Québec depuis 1974. Et l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des femmes autochtones par la lutte pour l'égalité, la justice, la non-violence, l'éducation, la santé et la sécurité économique et sociale. Ça fait vraiment quand même un 50e. La réalité des femmes autochtones a-t-elle changé beaucoup depuis, selon vous, Madame Étienne?
Ben, je pense que quand on parle de l'événement qui est à venir, c'est vraiment là, on voit bien qu'il y a deux gros projets en soi, celui du grand sommet. Si vous pouvez me permettre, je pourrais peut-être expliquer peut-être en gros là, qu'est-ce que ça consiste, le grand sommet.
Oui.
Ça sera une mobilisation de près de 160 femmes de différentes nations qui seront mobilisées à Québec pour échanger et discuter sur les enjeux qui nous concernent. Par exemple, si je peux nommer quelques thématiques, on parle du leadership et gouvernance. Il y aura comme thématique aussi également sur territoire et changement climatique, l'éducation, la santé mieux-être, langue et culture. Donc, il y a plein de thématiques qui seront effectivement là, couvertes là, et discutées, échangées par les femmes de différentes nations qui seront au rendez-vous. Et puis, sur ce, c'est que il y a des échanges, il y a des discussions, mais plus que ça. Il va y avoir effectivement à ce que les femmes puissent trouver des pistes de solutions à l'égard des thématiques qui seront sur la table au cours du Grand Sommet. Le 50e lui-même, c'est une célébration qui va permettre de célébrer l'existence de la Fondation de femmes autochtones du Québec. Il y a plein d'activités à travers tout ça aussi également.
Et puis, pour participer à ce grand sommet-là, les femmes autochtones du Québec étaient appelées à poser leur candidature, à savoir s'ils allaient participer à l'événement en présentiel ou en virtuel. Est-ce que vous avez eu un grand nombre de candidatures et comment s'est fait la sélection?
Il y a eu le lancement officiel pour que les femmes puissent s'inscrire. C'était en ligne. Donc, le 14 février, c'était le lancement officiel de l'annonce également de l'événement qui va avoir lieu en mai. Et puis, la fermeture des inscriptions a été le 14 mars. Maintenant, ce qu'on a à ce jour, c'est qu'on ne plus de 200 femmes de différentes nations qui se sont inscrites. Il reste présentement, là, on est en chantier là, pour travailler là-dessus, parce que dans le formulaire d'inscription, on demandait, il y avait quelques séries de questions aux femmes, par exemple, au niveau, bon, quel serait votre engagement que vous pourriez apporter au cours du Grand Sommet? Quels seraient effectivement ce que vous allez rapporter dans vos communautés? Donc, il y avait quand même là, quelques questions qui permettaient de voir effectivement là, la candidate là, qui aurait la possibilité de pouvoir participer en personne. Au mois de mai, mais il y a l'autre possibilité aussi également où est-ce qu'il y a des femmes qui se sont inscrites, mais qui voulaient plutôt être en ligne, donc en virtuel. Donc, on est en train de travailler sur ce grand chantier à ce moment-ci.
L'événement va porter sur différents thèmes, comme tu l'as dit, Marjolaine. Leadership et gouvernance. Qu'est-ce qu'on veut faire ressortir du leadership au féminin dans nos communautés, mais aussi à l'extérieur, dans des organisations comme Femmes autochtones, où on pourrait même parler d'organisations plus urbaines. Qu'est-ce qui ressort, puis qu'est-ce qu'on veut faire ressortir de ce thème-là lors de ce sommet-là?
Bon, en fait, leadership et gouvernance, c'est que au cours de mon entrée en fonction comme présidente, il y a eu au mois de novembre 2022 une un partenariat avec l'école dirigeante Première Nation HEC.
Oui.
Donc, on a pu co-créer entre Femmes autochtones du Québec et l'école dirigeante Première Nation, on a pu co-créer un programme Femmes et Leadership.
OK.
Donc, à ce moment-là, lors de cette première cohorte, je te dirais jusqu'à ce jour, parce qu'il va y avoir d'autres cohortes qui s'en viennent, d'autres programmes de formation, c'est que jusqu'à ce jour, on a environ plus de 70 femmes de différentes nations dans les différents domaines aussi également. C'est pas juste des femmes en politique, c'est aussi des femmes qui sont dans le domaine des arts, c'est des femmes qui sont vouées ou engagées dans leur propre milieu aussi également. Puis à ce jour, on a plus de 70 femmes, je disais, qui ont suivi cette formation-là de 5 jours environ. Et puis, elles ont reçu à la toute fin de leur programme de formation une attestation en leadership. Donc, je peux vous dire également que nous avons une liste d'attente de plus d'une centaine de femmes qui souhaitent effectivement suivre ce programme de formation-là en leadership. Je trouve qu'en soi, c'est un beau problème, mais il reste quand même qu'on voit bien l'intérêt au niveau sur le développement du leadership ou l'empowerment des femmes également. C'est pour ça qu'on couvre la partie leadership,
OK.
pour faire en sorte que les femmes puissent développer leur potentiel aussi également, ou sinon, elles les ont, il faut juste les réveiller. Fait que susciter l'éveil à travers le leadership, l'empowerment des femmes. Maintenant, au niveau de la gouvernance, au cours de 2023, Femmes autochtones du Québec, on a reçu un financement pour aller en démarche de préconsultation auprès des femmes de différentes nations aussi également en ce qui concerne la déclaration des peuples autochtones. Parce qu'à l'intérieur même de cette déclaration, vous savez, il y a des droits. Donc, l'article 21, 22 dans cette déclaration-là, c'est des droits en matière notamment sur avoir accès aux mêmes services équitables et puis tout le reste aussi également. Donc, c'est un droit. Donc, à ce moment-là, on voit que dans l'aspect gouvernance, on veut s'aligner vers les droits liés avec la Déclaration des peuples autochtones aussi également. Donc, ce projet-là a pu permettre de pouvoir faire en sorte d'avoir une consultation aux alentours de près de plus de 300 femmes de différentes nations pour connaître aussi également sur le sujet qui est la déclaration elle-même, puis de connaître aussi également quels sont les droits, quels sont vos droits, qu'est-ce que vous voyez comme droits aussi également dans vos milieux ou autres, là. Donc, leadership et gouvernance, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on souhaite effectivement qu'il y ait la toile de fond qui va amener effectivement l'intérêt des femmes des Premières Nations.
Puis, lorsque vous voulez, un des objectifs là, du sommet, c'est de réaliser l'état des situations concernant les femmes autochtones au Québec. Là, comme vous l'expliquiez plus tôt, vous avez fait une sélection de femmes qui apportaient quelque chose au sommet. Je présume que ces femmes-là amènent des choses à différents niveaux. C'est pas juste des leaders puis des personnalités exemplaires. Il va y avoir des gens qui sont aussi des membres de la communauté tout aussi importants et leurs perspectives sont tout aussi pertinentes.
Oui, exactement. Dans le sens que ce pourquoi il y a une mobilisation, un rassemblement, c'est que il faut faire en sorte d'entendre la voix des femmes. Et la voix des femmes ce sera entendue dans le cadre du rassemblement, du grand sommet, pour faire ressortir des pistes de solutions en lien avec les thématiques que je vous ai nommées tantôt. Mais ces pistes de solutions-là vont être mises sur la table pour dresser un plan d'avenir des femmes des Premières Nations, donc ce qui veut dire par et pour les femmes des Premières Nations au Québec. Puis ces pistes de solutions-là seront en fait un plan d'avenir à court, moyen, long terme. Donc, on va devoir effectivement, à partir de ces pistes de solutions-là, qui seront, bien sûr, votées, si on veut, là, il existe présentement là, le télévoteur là,
Ouais.
aussi. Puis les femmes vont pouvoir prioriser du plus important au moins important pour qu'on sache effectivement ce qu'elles souhaitent en matière de besoins, puis de nous enligner aussi également comme organisation pour dire, bon, voici les priorités qui se dégagent à court, moyen, long terme. Donc, on aura un plan là, qui sera identifié par les femmes qui seront là au mois de mai.
Il y a l'avenir. Le passé, le présent, on va être un petit peu dans cette dynamique-là où on va essayer justement de regarder en avant, de se dire, faire un état de la situation aujourd'hui à ce sommet-là. Développement social et économique. Parce que tu nous as parlé, Marjolaine, de donner la place aux femmes, de reprendre la voix. Est-ce qu'on parle aussi de reprendre le rôle que les femmes avaient aussi traditionnellement dans nos sociétés? Est-ce qu'il y a une place pour regarder nos racines d'où on vient dans cette approche-là que vous allez avoir pour se dire en arrière comment c'était nos sociétés traditionnelles, puis comment on est capable d'actualiser ça aujourd'hui?
Oui, en fait, c'est que cet élément-là que tu amènes, Alexis, c'est que on sait tous et toutes que présentement, il y a de nombreux rapports qui touchent l'état de la situation des femmes,
Oui.
des études, des rapports sur la violence ou. Donc, on partira pas de rien. Il faut ramasser ça. Il faut faire en sorte, effectivement, d'en sortir, le synthétiser, si on veut, dégager les principales informations aussi également, parce qu'il y a des recommandations qui s'y trouvent aussi dans les rapports. Donc, il y a des choses existantes. Puis, non seulement à partir de ça, qui est un outil, là, je dirais, essentiel, c'est que dans les prochaines semaines, on va mobiliser aussi également des experts dans nos communautés.
OK.
Par exemple, ces experts-là vont pouvoir venir aussi bonifier l'enjeu, si on veut, sur la santé et mieux-être et le reste. On aura une partie intellectuelle, on aura une partie d'expertise et connaissance de nos gens, de nos milieux qui ont cette expertise-là pour former une cellule, si on veut, pour présenter ça dans le cadre de l'événement. Puis tout va tourner autour, effectivement, sur la reconnaissance du rôle des savoirs de transmission culturelle, y compris nos langues maternelles, parce que ça, cette reconnaissance-là, elle était là avant même la colonisation, elle était là même avant même la loi sur les Indiens, puis encore avant la mise en place du système de pensionnat. Donc, ces événements-là ont marqué l'histoire des femmes des Premières Nations.
Puis pour l'événement en tant que tel, je présume que les femmes vont pouvoir s'exprimer dans leur langue, justement. Est-ce qu'il y a de la traduction prévue pour que les femmes puissent parler dans leur langue autochtone respective?
On prévoit l'anglais et le français aussi pour une meilleure compréhension, puis aussi que les gens puissent aussi le suivre là, le grand sommet. Donc oui, c'est prévu dans les deux langues. Et puis c'est un événement là qui est quand même assez, je vous dirais, historique parce que c'est un événement qui s'est jamais fait là au niveau du Québec. Au Canada, j'ai pas de connaissances là, mais au niveau du Québec, ça va être un premier rendez-vous. Mais ce que je voudrais mentionner dans tout ça, c'est que ce pourquoi il y a un grand, grand sommet, c'est parce qu'en 2022, j'ai effectué une tournée auprès des femmes des différentes nations et j'ai entendu à travers toutes mes rencontres que les femmes souhaitaient se donner un rendez-vous. Donc, ça n'a pas tombé de l'oreille d'un sourd. Je l'ai entendu, puis je me suis dit, bon, je pense que le rendez-vous, il est bientôt. Et puis on va s'asseoir, on va se parler, on va mieux se connaître entre nous aussi, entre les différentes nations. Puis ce ne sera pas uniquement là, des femmes qui sont dans un domaine X d'occupation, ça va être plusieurs personnes qui auront des rendez-vous parce que je pense que la femme au foyer, là aussi, il y a des pistes de solutions à aller chercher.
Oui, vraiment prendre le pouls de toutes les membres de nos communautés.
Marjolaine Étienne, présidente de Femmes autochtones du Québec, qui nous parle du grand sommet pour les 50 ans de Femmes autochtones du Québec. On va prendre une petite pause musicale, on revient tout de suite après. On est de retour avec Marjolaine Étienne, Pekuogami Squay. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit ça pour une femme du Pekuogami?
Pequagamichko.
Squaw, merci. Donc, présidente de Femmes autochtones du Québec, on discute du grand sommet des femmes pour les 50 ans de femmes autochtones. On posait un peu la question, puis on n'a pas réussi à y répondre au début, mais en 50 ans, Marjolaine Étienne, est-ce que toi, tu vois beaucoup de progrès qui ont été faits pour les femmes autochtones au Québec?
Je vous dirais qu'il y a quand même des choses qui se sont réalisées. Hein, je pense que le fait d'être une organisation qui est encore existante aujourd'hui va l'aider encore plus davantage avec les pistes de solutions que les femmes vont se doter ou identifier. Moi, je trouve qu'il y a des réussites. Comme toute organisation, il y a des réussites, il y a des échecs, mais ça a démontré effectivement que parmi ces réalisations-là, on est encore là, on est encore présent. Il y a encore des enjeux, hein, il y a des enjeux là aussi également. Puis moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont faites. Par le biais, je dirais, de divers projets. Je parlais tantôt du projet sur une préconsultation sur la déclaration des peuples autochtones. Ça, c'est quelque chose. Le fait de pouvoir faire en sorte de créer des programmes de formation leadership, ça, c'est une autre chose parce que les femmes, à ce moment-ci, démontrent un intérêt, effectivement, d'occuper les sphères décisionnelles. Puis je fais pas juste référence non plus en matière politique, mais il y en a d'autres places où ce que les conseils d'administration, il y a tout ça, là. Moi, je trouve qu'effectivement, il y a du progrès. Peut-être pas à la vitesse grand V qu'on aimerait, là, mais il reste que quand même, il y a des choses qui se font. Puis je pense que le grand sommet va permettre aussi de faire le point sur tout cet ensemble-là d'activités ou d'actions ou d'enjeux. Parce qu'on a tout en dedans de nous, puis je parle aussi au niveau des hommes masculins, Premières Nations, l'aspect de nos jeunes, les jeunes générations, c'est eux demain matin qui vont être nos futurs leaders. Puis je pense que c'est important, effectivement, que les femmes puissent aussi apporter leurs préoccupations, mais les pistes de solutions aussi également.
Moi, à l'époque où j'étais en politique, en Abitibi, je rencontrais des groupes de femmes Anishinaabe, je rencontrais des groupes de femmes féministes non autochtones, et il y avait une difficulté de compréhension entre ces groupes-là. Les féministes non autochtones avaient de la misère à comprendre l'approche féministe Anishinaabe ou l'approche féministe autochtone en général, où on parle de complémentarité, où on parle de justement du rôle de la femme, du rôle de l'homme, mais dans un esprit complémentaire plutôt que dans un esprit de l'égalité pure et simple. Est-ce que toi, à titre d'observatrice, ça fait quand même longtemps que tu es en politique, que tu es une femme qui est impliquée, que ce soit dans ta communauté, avec femmes autochtones, avec d'autres, on aurait pu faire la liste qui est longue de toutes tes implications, là. Mais est-ce que tu vois cette difficulté-là de communication entre le féminisme euro-occidental, on pourrait le définir comme ça, là, pour pas dire blanc, et le féminisme autochtone?
C'est une excellente question parce que je pense que là-dessus, par rapport au niveau du rôle féministe, autochtone, ce que je remarque et je constate, c'est que les femmes sont beaucoup tournées vers les besoins.
OK.
Hein, répondre aux besoins de sa famille, répondre aux besoins d'elle-même aussi également, puis répondre aux besoins des collectivités. C'est vraiment, on est axé sur notre travail, là, où certaines personnes ont des missions, puis elles ne savent pas qu'elles ont des missions. C'est sont tournées vraiment sur les besoins. Besoins parce qu'on a dans certaines communautés aussi également des besoins réels. On a des réalités sociales aussi également. Donc, le travail qui se fait par les femmes autochtones sont vraiment axés sur les besoins. Au niveau des allochtones, tourner vers les droits, hein, parce qu'on voit la différence entre autochtone et autochtone. Nous, on est sous la loi sur les Indiens qui nous rend encore aussi indépendants et pas indépendants, excusez,
Ouais.
dépendants de, je me suis trompée, nous rend aussi dépendants, ce pourquoi ça nous amène aussi également là à un niveau d'autonomie individuelle ou collectivement, là, encore, là, à pas. On est encore sous la jupe du fédéral, ce qui nous empêche aussi également d'être encore plus indépendants. Puis ça, c'est ce pourquoi les femmes sont tournées, c'est vraiment pour répondre aux vrais besoins.
Un autre élément d'incompréhension que j'ai remarqué entre le féminisme non autochtone et autochtone, c'est que le féminisme autochtone fait une place aux hommes. Dit que pour, justement, tu nous dis, Marjolaine, qu'on est tourné vers les solutions, vers des solutions à nos problèmes dans le féminisme autochtone. Ben, qu'est-ce que j'ai entendu de femmes Anishinaabe ou d'autres femmes de d'autres communautés, c'est que pour arriver à ces solutions-là, faut inclure les hommes.
Oui, il faut les impliquer, puis en même temps, en les impliquant, il faut aussi expliquer tout l'aspect d'où on vient. Hein, je pense que l'aspect de notre histoire, là, l'histoire des peuples autochtones, elle est présente. Il y a des événements qui nous ont marqués, ont marqué aussi les femmes, ont marqué aussi les hommes autochtones. Puis ça, ben, ça a des impacts à ce moment-ci sur nos générations, nos générations actuelles, puis même les autres générations avant aussi également. Donc, toute la partie d'histoire, ça amène aussi un effet, je dirais, pour pouvoir mieux comprendre d'où on vient. Parce que tantôt, je t'ai entendu, Alexis, tu parlais, bon, d'égalité. Mais si je me réfère à une époque dans mon ancienne vie là, comme vice-chef aux affaires extérieures,
Oui.
c'est que j'étais porte-parole du Conseil des femmes élues de la PNQL. Et puis, on avait fait une étude, une rencontre là, avec les femmes élues. Mais pour nous, l'égalité, ça ne faisait pas partie dans notre langage. Nous, ce qu'on dit, c'est l'équilibre. L'équilibre qu'il y avait avant la colonisation, l'équilibre entre les hommes et les femmes.
OK.
Donc ça, c'est une appellation que je trouvais tout à fait là, qui prenait tout son sens, parce que ça prenait une dimension là, dans le sens que les relations les hommes et les femmes, leur rôle était vraiment là, ils savaient quel rôle qu'il y avait là. Fait que c'est ça. Mais l'égalité, on parle de droit, on parle de tout ça. Fait que moi, je trouve qu'il y a une appellation là, qui est vraiment propre à nous là.
Puis, au sein des communautés autochtones, on sait très bien aussi qu'il n'y a pas juste l'homme et la femme, il y a aussi tout un spectre qui est entre les deux, surtout quand on est en 2024, pas nécessairement juste en milieu urbain, mais moi j'ai des amis qui sont bispirituels en communauté, qui peuvent être à la naissance, avoir été assignés femme ou garçon. Est-ce qu'il va y avoir un espace particulier pour les gens qui sont peut-être non-binaires ou bispirituels?
Dans le grand événement, le grand sommet, on fait une approche, comme je dis, une approche inclusive. Je pense que tout le monde peu importe les différences qu'on a, moi, je pense que on se doit effectivement d'avoir une approche inclusive. Il faut faire en sorte d'entendre aussi ces personnes différentes aussi également, parce que je pense qu'elles ont une voix aussi à nous apporter, parce que comme tu dis, on a dans nos communautés et elles ont une place là aussi également. Moi, je trouve que ces personnes-là, on doit effectivement les impliquer à travers les nations pour pouvoir les entendre.
En terminant, pour notre dernière minute d'entrevue, ça va être quoi le plus gros défi de ce grand rassemblement-là, Marjolaine Étienne?
Le plus gros défi, je vous dirais, c'est que Alexis l'a mentionné tantôt. Là, je veux juste faire un petit peu de reprendre l'image qui m'est venue, c'est qu'on parle de notre passé, hein, puis on va parler de la photo du jour, puis là, on va se diriger vers l'avenir. Fait que ça, c'est cette photo-là, il va falloir faire en sorte de ne pas tomber trop longtemps dans le passé. Oui, on peut revisiter. Oui, on peut le regarder. Oui, on peut en parler. Mais ce qui va être encore plus important, c'est de parler de notre avenir. Parce que c'est ça qui est important, d'avoir un legs qui va être préparé par et pour les femmes des différentes nations. Donc, se donner une direction sur les thématiques que je vous ai mentionnées tantôt.
Marjolaine Étienne, présidente de Femmes autochtones du Québec. Tchikistmeton.
Miigwech?
Bon, grand sommet pour les 50 ans de femmes autochtones du 13 au 16 mai. On aurait dit inscrivez-vous, mais les places sont pleines. On va attendre les résultats.
Oui, c'est ça. On va voir votre rapport aussi, je présume, après qui va suivre.
Ah oh oui, bien sûr, pas de problème.
Je ne suis
OK, yo, bye.
Bye.